bonjour.
Un réveil un peu difficile ce matin.
Un réveil comme on pourrait le craindre depuis quelques temps, mais qu'on n'espérait pas. Effectivement, une impression étrange d'avoir perdu quelqu'un de proche, et je pense que je ne suis pas le seul.
Mais parmi tous ceux qui ont cette impression ce matin, ben vous avez eu la chance, le bonheur de le côtoyer. Vous vous rappelez la première fois que vous avez rencontré Johnny ?
Ben, je me rappelle, déjà c'était il y a bientôt 30 ans, et je me rappelle d'autant plus que ça a toujours été mon porte-bonheur. Johnny m'a mis le pied à l'étrier, m'a fait confiance sur les premiers concerts, et puis depuis, malgré des changements de producteur, des changements de manager, de maison de disque, de tout ce qu'on veut, où là normalement, ben, il y a beaucoup de changements autour aussi, il est toujours resté fidèle, et ça a vraiment été nos porte-bonheur, parce qu'on a inauguré tous les endroits qu'on peut imaginer en Suisse romande, que ce soit le Stade de Genève, que ce soit l'Arena, que ce soit Dijon-Rive, à Neuchâtel, le Forum à Fribourg, le Stade de Tourbillon, partout, il m'a suivi dans mes délires, dans mes aventures, et vraiment, il m'a porté chance, puisque à chaque fois, il venait inaugurer ces endroits, en sachant même pas où c'était, pourquoi,
il nous faisait
confiance. Et puis, moi, mon dernier souvenir, c'est évidemment, il est venu à l'Arena pour le concert des Vieilles Canailles, avec Dutronc et Eddy Mitchell. Et là, il était déjà très, très mal. Je trahis pas un sacré, puisque tout le monde a su avant qu'il arrive qu'il avait ce cancer. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est à quel point il a été courageux sur ce concert. Il a eu des chimios juste avant. Il y avait des médecins qui le suivaient. Moi, j'avais les larmes aux yeux de le voir monter sur scène. Je ne connais pas un chanteur au monde qui serait monté sur scène dans cet état. Mais voilà, il a un tel amour du public. On ne peut pas annuler. On ne peut pas annuler. Il faut que j'aille.
Cet amour du public, justement, c'est quelque chose qui reste, dont on parle souvent quand on parle de Johnny Hallyday. Il avait même fait en Suisse un concert dans un pénitencier dans le canton de Vaud. C'est quelque chose qui vous marque, cette proximité avec ses fans?
Ben c'est ce qui en fait un chanteur différent des autres, c'est-à-dire d'avoir su pendant plus de 50 ans créer cette proximité. Vous savez, quand j'étais à Saint-Étienne quand il a eu son premier arrêt, il est revenu à Saint-Étienne au Zénith et on s'est tous réunis là-bas. On se retrouve à 4h du matin, donc pour son retour, on se retrouve à 4h du matin. Au bar, et à l'autre bout du bar, il y a les musiciens qui débriefent aussi entre eux. Et puis là-dedans, il y a des jeunes musiciens qui, en parlant entre eux, disent « Ah, t'as vu, j'ai fait une fausse note. » Et l'autre lui dit « Bah, c'est pas grave, personne n'a entendu. » Et Johnny, qui entend tout, lui, il quitte le bar, il va directement vers eux, il leur dit « Écoutez, vous êtes jeune, hein, mais je vais vous apprendre une chose, vous dites jamais ça, jamais je vais vous entendre dire, c'est pas grave. Le public, on le respecte, il est venu pour nous, donc si vous faites une fausse note, oui, c'est grave. » Arrangez-vous pour demain ne pas la faire. Et moi, j'étais tellement bluffé par ça, parce que voilà, c'est une telle star, à 4h du matin, il se préoccupe encore d'une fausse note, parce qu'il a un tel amour du public. Et ça, c'est ce que le public a ressenti, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a trois générations qui venaient voir ses concerts.
C'est justement la question que j'allais vous poser, parce que vraiment, les fans pleurent, et même ceux qui ne sont pas forcément fans, ça nous fait tous quelque chose. Selon vous, pourquoi Johnny a autant touché les gens? C'est pour tout ce que vous venez de dire, finalement, pour cette rigueur qu'il avait, ce souci qu'il avait pour son public?
Oui, et puis aussi parce que, malgré tout, on a des images de Johnny, superstar dans les magazines, mais on a aussi des images de Johnny qui sont authentiques, qui le rapprochent de la vie des gens. Et c'est Johnny dans son quotidien, avec ses enfants, avec ses mariages, avec vraiment, les gens ont partagé sa vie, mais en même temps, oublions pas la star que c'était. Ils ont partagé la vie de quelqu'un d'incroyable. Mmh. Et j'étais à Los Angeles, dans la plus grande maison de production du monde, et évidemment, il y a en bas le mur où il y a les records qui sont là, et des plus grandes ventes d'albums, puis vous avez évidemment Elvis Presley, Michael Jackson, les Beatles, etc. Puis vers la 15e place, vous avez un petit bonhomme qui s'appelle Johnny Hallyday, qui a vendu 110 millions d'albums. Hein, 110 millions, faut pas l'oublier. Et ce qui rend ça incroyable, et ce qui explique cette relation qu'il a unique avec son public, c'est que ces 110 millions d'albums, ils ont été vendus pratiquement dans deux pays. les autres les ont atteints en vendant ça dans le monde entier. Ouais, ça veut dire que dans ces deux pays, c'est-à-dire essentiellement la France, la Suisse et puis une grosse partie de la Belgique aussi, tout le monde connaissait Johnny et tout le monde, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, a partagé sa vie depuis un demi-siècle avec lui.
Alors vous l'avez dit tout à l'heure, Michael Driberg, ça fait 30 ans hein, que vous côtoyez Johnny Hallyday. Vous avez pu faire face aux grands professionnels, aux musiciens, à la superstar, mais également à l'homme, hein, tout simple, que vous retrouviez en loge avant et après les concerts. Vous gardez quel souvenir de cet homme-là, en dehors du chanteur?
Je garde un souvenir de quelqu'un de très respectueux, qui vous écoute. Ça paraît banal quand on parle comme ça, quand on parle à des stars comme ça, je peux vous dire, il n'y en a pas souvent qui vous écoutent. Hein, ils sont dans un autre monde, une autre planète. Lui, c'est quelqu'un d'abord éminemment timide. J'ai mis presque 10 ans avant d'oser lui demander une photo, parce que je croyais qu'il était autre monde, parce qu'il parlait pas trop, on le croisait, on n'osait pas l'arrêter, parce qu'il dégage quelque chose, hein, Denis, faut s'imaginer. Malabar, hein. C'était quelqu'un qui était très costaud, très grand, les yeux transparents, et puis il dégageait quelque chose, simplement que ces stars dégagent. Mais en plus, il donnait l'impression qu'il n'avait pas envie de nous parler. Et j'ai mis des années à comprendre que c'était une extrême timidité. Ouais. C'est lui, ça paraît drôle de dire, mais c'est lui qui n'osait pas nous parler en se disant il a pas envie de nous parler, c'est tout. Et dès le moment où j'ai rompu cette classe, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un tellement touchant et tellement gentil, agréable, et qui s'intéressait à tout et qui écoutait, surtout qui écoutait.
Michael Driberg, on vous remercie beaucoup d'avoir pris quelques minutes ce matin pour partager avec nous cet hommage à Johnny. Et puis, je pense que tous les fans que vous avez pu faire vibrer grâce aux différents concerts que vous avez organisés de Johnny Hallyday un petit peu partout en Suisse romande auront eu du plaisir également à partager ces quelques moments et ces quelques souvenirs. Je vous propose d'allumer le feu, hein, parce que le feu sacré, on va le garder pour le rock'n'roll. Et conclure ainsi cet hommage dans Format 3 à Johnny Hallyday. Merci beaucoup, belle journée.
Merci, au revoir.